Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier podcast de Chronique du Nouveau Monde. Pour ce premier épisode, on parle avec Vanessa, qui sillonne l'Amérique latine depuis plus d'un an, à vélo, et qui a vécu beaucoup de belles choses, qui a fait beaucoup de belles rencontres. Elle nous en parle tout de suite.
Tu m'entends bien ?
Oui, je t'entends très bien. Et toi ?
Ouais, tout bien. Parfait.
Donc, pour remettre dans le contexte, on s'était parlé il y a plus d'un an maintenant, un an et deux mois, je crois. C'était le début de ton voyage et tu comptais rester 6 mois. Et maintenant, plus d'un an après, tu es encore en Amérique latine et il semble que tu vas encore rester un bon bout de temps, si j'ai bien compris.
C'est ça. Ouais. Je pense être encore là au moins 5-6 mois.
D'accord, waouh. Donc c'est vraiment une longue prolongation. Du coup, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, j'imagine qu'il t'est arrivé des milliards de choses. Qu'est-ce qui t'a fait évoluer? Qu'est-ce qui t'a fait décider de rester? Est-ce que tu es toujours aussi sur ton... Tu es partie avec une thématique autour de l'écologie et du pouvoir d'agir citoyen? Est-ce que tu es toujours sur cette thématique? Enfin, voilà, pour savoir un peu où est-ce que tu en es.
Alors, dès le début du voyage, en fait, les plans n'ont jamais été suivis.
Oui.
Puisque je devais rester un mois à Cusco pour apprendre l'espagnol. Et ensuite, j'avais un itinéraire un peu prévu pour remonter jusqu'à la Colombie.
Oui.
Et sur les 6 mois. Et en fait, très peu de temps après qu'on se soit parlé, voire c'était à peu près au même moment, j'ai fait la découverte d'un projet à Cusco qui s'appelle Huacicleta, qui va promouvoir, en fait, qui cherche à promouvoir l'usage du vélo dans la ville.
Oui.
Et ils venaient à peine d'ouvrir. Ils avaient ouvert le 31 octobre. Vraiment. Et j'avais pris contact avec eux 2-3 jours après qu'ils aient ouvert.
Oui.
Et en fait, à ce moment-là, j'étais dans une période où je commençais un peu à m'ennuyer, en fait, réellement, à Cusco, puisque j'avais fait beaucoup de tourisme. J'avais terminé mes classes, mes cours d'espagnol. Et 10 jours plus tard, j'avais à faire une conférence à l'université.
Oui.
Et en fait, j'avais pas grand-chose à faire pendant ces 10 jours-là. Et je commençais un peu à pas trop savoir. Donc, du coup, je suis allée voir Huacicleta et je leur ai dit, écoutez, si vous voulez, j'ai 10 jours à vous accorder. Je peux vous donner un coup de main si ça vous tente. J'avais discuté déjà avec un des leaders du projet, si ça vous tente, sur tous les thèmes réseaux sociaux, organisation d'événements, etc. Je peux vous apporter ça pendant 10 jours. Et en fait, les 10 jours se sont terminés en 2 mois.
D'accord.
Voilà. Et si je suis partie, c'est qu'une amie m'a rejoint, qui avait elle également un projet, enfin voyager avec la thématique un peu environnementale. Et en fait, elle est arrivée et du coup, on est partis ensemble. Sinon, probablement, je serais encore à Huacicleta au moment où je te parle.
D'accord. Donc, tu t'es bien
énormément investi dans le projet.
Oui.
Donc, c'est vrai que pendant ces 2 mois... Oui, pardon.
Non, ton amie, c'était une amie française que tu avais avant?
C'était une amie française qui devait me rejoindre pour les 3 derniers mois de voyage et on devait suivre des initiatives, chacune avec nos propres thématiques spécifiques, en lien avec l'écologie, mais avec des approches différentes.
D'accord.
Et donc, en fait, on devait se retrouver à Lima, etc. Et au fur et à mesure, je me disais, non, en fait, je suis toujours à Cusco, je suis toujours à Cusco, on est ensemble à Cusco. Et elle est partie quelques jours après. Et vraiment, je pense que si elle n'était pas venue,
tu serais
encore là-bas.
D'accord.
Parce que du coup, je me suis vraiment investie profondément dans le projet. J'ai aidé à mettre en place des actions continues aujourd'hui. Par exemple, le truc, un marché qui promeut des initiatives et des entrepreneurs. Soutenable, enfin écolo, avec une logique durable, c'était dans le but de mettre en fait en avant, en plus du thème du vélo, toutes les thématiques en rapport avec l'écologie, donc le zéro déchet, l'alimentation saine, les produits écologiques qu'on peut se faire soi-même, etc. Parce qu'il y avait un tissu, je m'étais rendu compte qu'il existait un tissu d'entrepreneurs sociaux et environnementaux à Cusco, mais qu'ils se connaissaient très peu en fait. Il y avait très peu de réseaux. Et donc pour moi, je m'étais dit, c'était un moyen de mettre les gens en réseau et de faire connaître au public, aux Cusquéniens, qu'il existait des alternatives et qu'il existait des entreprises, des petites entreprises qui agissaient sur ça. Donc
Et
voilà, donc ça
c'était
c'est un des éléments un peu phares que j'ai aidé à mettre en place et qui continue aujourd'hui. Je suis très heureuse de voir que ça continue et que ça prend de l'ampleur. Donc voilà, donc bref, sur mes 6 premiers mois de voyage, j'en ai passé 3 à Cusco. Donc du coup, voilà, la suite du voyage s'est passée à peu près comme prévu. Du coup, on a remonté le Pérou, l'Équateur et la Colombie.
En vélo, toutes les deux.
Et non, à ce moment-là, j'étais encore backpacker. J'étais encore en sac à dos avec mon ami jusqu'en mars. L'Équateur, on s'est investi, on s'est arrêté notamment dans un projet. C'était un éco-village, donc une petite communauté qui s'était développée à côté de Vilcabamba. Et eux, à ce moment-là, en fait, ils étaient dans une réflexion un peu sur tout ce qui est vivre sans hiérarchie, travail collaboratif, partage de valeurs, etc. Et mon ami et moi, comme on était sur on travaillait avant, enfin, on était bénévoles dans des organisations. En France, qui a travaillé sur ces thématiques-là, on leur a donné quelques ateliers, on a fait quelques ateliers pour leur montrer des outils en fait et leur permettre de travailler avec l'intelligence collective, on appelle ça, et de manière collaborative, sans qu'il y ait d'hiérarchie, sans qu'il y ait de chef. Donc on leur a donné un peu des pistes et des billes pour. Donc on s'est investi 15 jours là-bas dans ce projet-là, ça a été vraiment super. Et enfin, on est arrivé en Colombie et là-bas, j'ai passé un mois à Medellín. Donc, j'ai pas connu grand-chose de la Colombie au final. Où en fait, on s'est investi dans un projet qui s'appelle l'Agroteca, qui est en fait un projet de création de jardins urbains dans une bibliothèque. Et en fait, l'objectif, c'est que cette bibliothèque va former en fait des habitants à la permaculture, à la notion de jardin, et donc transmettre des valeurs de manger sain, préserver la nature, etc. Mais avec pour origine de parer un peu à tout ce qui est l'insécurité alimentaire que pouvaient traverser les populations, puisque c'était dans la Comuna 13, donc une commune qui est assez pauvre. Et donc du coup, l'idée, c'est que des fois, bah, les gens n'arrivent pas à se nourrir. Et donc, ils voulaient tenter de former les gens à faire son propre jardin de manière soutenable pour leur permettre d'être autonomes en fait de manière alimentaire. Voilà. Et donc en fait le projet avait eu une grosse ampleur 2 3 ans auparavant et puis l'équipe de la bibliothèque avait changé, les citoyens qui s'étaient investis avaient un peu changé et ils avaient eu du mal à ce que l'appropriation se fasse par les citoyens. Donc là ils recommençaient un peu le projet depuis la base. Donc, il y avait très peu de personnes investies. Et donc, quand moi, je suis arrivée, en fait, je suis arrivée en mode, bah, je vais découvrir ce qu'ils font, comment ils font, comment ils travaillent. Et ben, ça a été un peu la désillusion, puisque je m'apercevais que finalement, le collectif n'existait plus au regard de ce que j'avais découvert sur Internet.
Parce que toi,
Et.
tu fais un travail au préalable pour chercher ce
Ouais.
genre d'initiative.
Alors, pour ce point spécifiquement, oui, puisque cette intervention dans l'agrothéca. Et à l'origine, pour un prototype, je veux développer en fait un canal YouTube avec une émission qui pourrait être un peu sur un format émission télé, où j'irai à la rencontre en fait de collectifs en France ou à travers le monde, ça dépendra d'où je serai, à la rencontre des collectifs qui s'organisent en fait pour proposer des alternatives et de montrer que bah, en fait dans ces collectifs, non seulement on répond à l'enjeu du collectif, si c'est pour le jardin, ben, l'enjeu de la sécurité alimentaire, si c'est pour les déchets, pour réduire les déchets, mais aussi qu'on développe, on découvre, on reçoit beaucoup plus en fait de la part du collectif, que ce soit du lien social, que ce soit des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances, etc. En gros, cette émission, c'est pour dire s'engager pour l'écologie, pour une thématique sociale ou peu importe, c'est chouette, mais en plus, quand on est dans un collectif, ça nous apporte beaucoup plus et d'encourager les gens à s'investir en fait. Puisque je reste avec cette idée du pouvoir d'agir citoyen, oui. Qui est en fait, si on se réunit tous ensemble, on a beaucoup plus d'impact.
Voilà. Voilà. Donc, c'est pas donc, du seulement, coup, je suis soyez écolo, c'est tu veux montrer le pouvoir qu'il y a quand on s'unit en fait pour certaines causes, quelles qu'elles soient finalement.
Mon objectif, c'est de parler à des gens qui sont déjà sensibilisés à l'écologie et qui agissent déjà individuellement. Et en fait, c'est de les aider à passer à l'étape suivante qui est de s'investir dans un collectif et dans un groupe plus grand pour pouvoir avoir un impact plus important.
D'accord. Ok.
Voilà. Et donc, du coup, le projet à Medellin était vraiment pour faire le prototype. Pour le moment, puisque les plans ont changé, que je suis en train encore de voyager, je n'ai pas encore monté l'émission.
Oui.
Je n'ai pas encore monté l'épisode. Le but, c'est de le monter à mon retour en France et de le diffuser par la suite. Mais voilà, l'idée, c'est de faire ce prototype-là, de voir si ça fonctionne. Et ensuite, bah, d'essayer de le généraliser, de le professionnaliser un petit peu. En tout cas, trouver une équipe qui pourrait m'accompagner sur ce projet-là aussi.
Donc, tu as pris plein de vidéos. C'est juste qu'il faut les monter. Et tu as le matériel, voilà. Disons.
J'ai le matériel, j'ai la trame, j'ai comment je veux raconter l'histoire. Oui. Il y a juste maintenant plusieurs journées de travail à monter tout ça.
Bien sûr. Et puis, bon, tu es toujours en vadrouille, en vélo, etc. Ça ne doit pas être facile de se poser.
C'est compliqué.
Ouais.
C'est ça. Et donc, du coup, donc ça, c'était la Colombie. Et en fait, juste un petit retour en arrière, quand j'étais à Huasicleta, forcément, c'était la thématique du vélo. Et en fait, j'ai eu connaissance qu'il existait un forum mondial du vélo qui allait
tu m'en avais parlé.
En Équateur. Mm-hmm. Et voilà, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai postulé pour donner une conférence sur le pouvoir d'agir citoyen en France, le mouvement en France, pour donner un peu une vision différente, en tout cas, la vision que moi, je connaissais.
Oui.
Et j'ai été retenue pour cette conférence.
Oui.
Donc, du coup, déjà, j'ai commencé à me retarder puisque je devais rentrer en mars et que le Forum mondial était fin avril. Donc, du coup, déjà, j'avais un mois de retard.
Oui.
Et à ce moment-là, en fait, en Colombie, à Medellín, je me suis dit, le Forum mondial du vélo, ce serait génial d'y arriver à vélo.
Oui.
Et de là est née l'idée de voyager à vélo. Donc, je me suis acheté le vélo et j'ai commencé à voyager à vélo. Donc, seulement deux petites semaines pour arriver au Forum mondial.
Donc
et
Medellin.
En fait, oui.
D'accord.
Voilà. Et en fait, sur la route, j'ai rencontré deux Mexicains, une maman et son fils de 13 ans, qui eux aussi allaient au Forum mondial du vélo.
En vélo.
Et donc, on a partagé à vélo.
Oui.
Et donc, on a partagé la route ensemble. On s'est super bien entendu. Et on avait le même plan parce que moi, du coup, à ce moment-là, j'avais mon billet d'avion retour pour la France qui était prévu le 16 juillet. Et donc, du coup, j'avais prévu de voyager un mois à peu près sur la côte équatorienne. Mmh. Et en fait, eux aussi. Donc, du coup, on a partagé la route un mois de plus ensemble. Et en fait, donc un mois de plus, ça nous a amené à fin mai, début juin. Et puis, j'ai continué de pousser un peu parce que je me suis vraiment tombée amoureuse de cette manière de voyager.
Oui.
Qui a été une révélation pour moi parce que dans le voyage en sac à dos, ce que je recherchais, c'était de l'authenticité. C'était aller un peu en dehors des sentiers battus. Et en fait, le voyage à vélo te permet encore plus d'aller encore plus loin dans l'authenticité, dans la rencontre avec les gens, puisque tu fais peu de kilomètres par jour. Tu fais entre 50 et 100 kilomètres par jour.
Oui.
Ce qui te fait découvrir très, très bien un pays. J'ai une géographie très précise des régions que j'ai traversées à vélo, jusqu'à connaître des tout petits villages.
Oui.
Et voilà. Et en fait, ça m'a fait me poser beaucoup de questions à ce moment-là sur mon retour en France, alors que j'avais des projets. À ce moment-là, j'avais des projets pour mon retour en France.
Mmh.
Et ça m'a fait poser beaucoup de questions. Et j'ai tiré la corde jusqu'au début du Pérou, jusqu'au nord du Pérou, où je ne devais pas du tout arriver là, mais voilà.
Oui.
Et à un moment, je me suis dit, je m'en vais. Et puis, je suis partie. Et puis, trois jours plus tard, parce que pendant ces deux mois-là, eux allaient jusqu'à Ushuaïa.
Wow.
Et pendant ces deux mois, ils me disaient, mais non, accompagne-nous jusqu'à Ushuaïa, ça va être génial, etc. Et en fait, au bout de trois jours d'être partie, j'étais encore dans la région du nord du Pérou. Et en fait, je les ai appelés et je leur ai dit, vous avez raison, je me sentais très mal et vous avez raison, je prends pas mon avion et je vous accompagne jusqu'au choix.
D'accord, donc une décision un peu impulsive, quoi. Tu t'es dit, bon.
Impulsive,
Enfin.
oui et non, parce que
Oui.
ça a été vraiment 3 jours de réflexion profonde. J'étais avec un ami à ce moment-là et on en a discuté, je pense, pendant des heures, des heures et des heures. Je
Oui.
revenais sur le sujet tous les jours et en fait, je sentais comme une pression dans le torse, tu vois, un mal-être général avec cette idée de rentrer en France. Et
Oui.
au moment où j'ai commencé à envisager les options qui me permettraient de rester un peu plus, j'ai senti la pression s'en aller.
Oui, tu as senti que
Et
c'était la bonne décision de rester
voilà, c'est ça.
et
Et
de
j'ai
continuer
senti
le
que c'est,
voyage.
voilà, je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai écouté mon corps et j'ai dit, bon, ben mon corps me dit, se sent mieux à l'idée de rester, c'est que je n'ai probablement pas vécu tout ce que j'avais à vivre.
Oui.
Donc, à 15 jours de rentrer en France, j'ai appelé la famille et je leur ai dit, ben en fait, je suis à 9 mois de voyage au lieu de 6 et je
J'aimerais.
pense que je vais rester encore au moins jusqu'à Ushuaïa qui était à ce moment-là 6 mois de plus.
D'accord. Ça c'était en juillet.
En juillet.
En
Ça,
juillet.
c'était en juillet.
Et comment a
Et
réagi
donc,
ta famille?
alors,
Pas le
mon
choix.
papa est entré en panique. Voilà. Enfin, non, il s'est forcément beaucoup préoccupé. Je pense qu'en plus, 9 mois, je suis fille unique. Donc, 9 mois loin de la France, loin de la famille, loin de lui, je pense qu'il était content à l'idée qu'on allait se revoir. Et moi aussi, j'étais très contente à l'idée de le revoir. Mais voilà, j'ai suivi mon chemin. Et bah, ma maman, elle m'a dit, bah, je le savais.
Ouais, elle le
Elle
sentait.
était plus en mode, je le sentais, et qu'elle était contente pour moi parce qu'elle disait, je sens que tu es enfin en accord avec toi-même, donc vas-y, vas-y, et puis on garde contact.
Ouais. Bah c'est cool ça.
Donc,
C'est pas
oui.
des ré
Et
réactions.
puis
Enfin,
les
même si ton
amis, j'en ai parlé
papa.
avec mes meilleurs amis. J'en ai aussi beaucoup parlé avec mes meilleures amies à ce moment-là.
Oui.
Et elle était dans le soutien, évidemment, on me disait, on serait ravis que tu rentres, mais on te soutient à 100% et on t'attendra à ton retour pour boire une bière ensemble. Voilà.
Et donc, tu as
Par
décidé de
contre,
rester. Oui.
à partir de ce moment-là, c'est vrai que ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un groupe WhatsApp qui réunit ma famille et mes amis les plus proches. Et je leur donne des nouvelles presque tous les jours. Au moins quand je suis en train de pédaler, je leur donne des nouvelles tous les jours pour deux raisons. La première, bah, qu'ils ne s'inquiètent pas trop.
Oui.
Et la seconde, en fait, j'ai envie de leur montrer le monde tel que je le vois à
Oui.
travers mes yeux, parce que je suis un peu, pour se moquer, ils disent souvent écolo, bobo, hippie.
Ouais.
Et un peu monde des bisounours. Et en fait, j'ai envie de leur montrer que ce monde des bisounours, en fait, il existe. Et il y a énormément de gens qui m'aident dans ce voyage, à vélo particulièrement,
Oui.
qui me reçoivent, qui me donnent un coup de main, qui nous donnent, des fois, qui s'arrêtent sur la route pour nous donner de l'eau ou nous donner à manger. Enfin, voilà. Donc j'ai envie de
Oui.
leur montrer aussi ce monde-là et que le monde n'est pas tel qu'on le voit dans les médias.
Oui.
Mal et voilà.
Et puis ça fait du
Et puis
bien
ça fait du bien
peut-être aussi de partager ce
de
que
partager ce que
tu enfin que de
tu
pouvoir
de
partager ce
pouvoir
que tu
partager
vis.
ce que tu
Comme
vis.
ça, quand tu
Comme ça,
reviens,
quand tu reviens,
t'as pas à
t'as
tout
pas à
expliquer, quoi. Ils
expliquer,
comprennent
quoi.
déjà par quoi tu es
Et
passé, même si bon, ils comprennent pas tout.
exactement.
Voilà, ça
En
facilite
fait,
un
ça
peu.
me permet de les faire qu'ils soient partie intégrante au voyage.
Voilà.
Parce que du coup, quand tu es sur un voyage de 6 mois, tu peux encore rentrer et raconter un peu tes aventures. Mais quand on est déjà à 14 mois,
Oui,
il y a
tu peux pas
énormément de
tout
choses.
raconter.
Bah, déjà, il y a des petites choses basiques que tu oublies. Et je pense qu'il y a tellement de choses à raconter que tu ne sais pas quoi raconter au final.
Oui.
Donc,
Et puis
ça
tu
permet de
sens moins
garder
de
du lien.
distance après, quand tu rentres.
Comment?
Ça permet
Ça permet
d'avoir l'impression d'être moins loin d'eux quelque part.
C'est ça, exactement. Ça permet de garder le lien, en fait.
Oui.
Surtout avec les amis, avec la famille, le lien, tu sais, qui se perd jamais. Mais les amis, ça peut se perdre et c'est des gens qui me sont très chers.
Oui.
Donc, du coup, ça me permet de garder ce lien et ça, c'est génial.
Ouais. Et tu as Internet tout le temps? Enfin, je veux dire, tu arrives à avoir Internet très régulièrement.
J'arrive à avoir Internet très régulièrement. Je m'achète une carte SIM dans chaque pays pour avoir au moins WhatsApp illimité.
Oui.
qui est quasiment à chaque fois. Oh, pardon, attends, je vais faire mieux. Et donc voilà, donc ça permet de garder le lien très, 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 très souvent. Il y a juste eu
D'accord.
une période, un moment où je suis partie dans le milieu de nulle part, un petit bout de 200 km au Chili, où je savais que pendant 6 jours, 6, 7 jours, je n'allais pas avoir d'Internet. Mais à ce moment-là, j'ai prévenu, je leur ai dit, voilà, il y a 10 jours où j'aurai pas d'Internet et pas de panique, tout va bien, je vous donne des nouvelles. Et voilà, quand
D'accord.
j'ai à nouveau de l'Internet.
Et où est-ce que tu dors en général?
On a une tente. Alors, aujourd'hui, pour te dire, je suis toujours avec les deux Mexicains et
Oui.
on a rencontré un Colombien sur la route. Donc, nous sommes quatre à voyager ensemble.
En vélo, à vélo.
À vélo.
Oui.
Depuis, voilà, ça fait 4 mois qu'on voyage avec le Colombien et 6 mois que je voyage avec les. Non,
Les Mexicains.
ça fait 8 mois, 7 mois que je voyage avec les Mexicains et 5 mois que je voyage avec les Colombiens. Le Colombien.
D'accord.
Et donc, on a une tente. Donc, du coup, ça nous permet d'être autonomes. On peut dormir au milieu de nulle part.
Une tente
Sinon,
pour
quand on
quatre,
arrive dans
une
des.
tente pour quatre personnes.
Alors, on a deux tentes en réalité, une de quatre places et une de deux places. Mais quand tu as pédalé toute la journée, tu es un peu fainéant. Et
Ouais.
donc, du coup, on monte qu'une seule tente et on
Oui.
partage tous la même tente.
D'accord.
Voilà. Et donc, du coup, on a plusieurs. Donc, on peut dormir en tente. Des gens peuvent nous recevoir, des contacts, chez les pompiers énormément, dans des
Ah
églises
oui.
aussi. Enfin, généralement, on est reçu. Je n'ai quasiment jamais payé d'hébergement
D'accord.
parce que les économies se sont, depuis un petit moment, se
Et oui,
sont
j'imagine.
arrêtées.
Oui.
Donc, du coup, aujourd'hui, on est dans un mode de voyage très, enfin, très peu cher finalement.
Oui. Et au niveau de
Et
la nourriture?
alors, au niveau de la nourriture, alors on va acheter une partie de la nourriture. Pour tout ce qui est fruits et légumes, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les marchés, en fin de marché, et on va récupérer les fruits et les légumes qui sont un peu, qui commencent un peu à pourrir,
Sont moches.
en tout cas, qui sont moches, les fruits et légumes moches, exactement. Et on les récupère parce que généralement, ils vont soit les jeter, soit. Enfin voilà, généralement, donc on leur demande s'ils peuvent nous donner ce qu'ils ne vont pas vendre ou ce qu'ils n'ont pas vendu. Et on a largement ce qu'il faut avec ça.
Oui.
Des fois, des gens nous offrent à manger parce qu'en fait, la manière de voyager à vélo, elle attire beaucoup l'attention et beaucoup la
Oui.
sympathie. Donc, ça
Oui.
arrive que les gens nous disent « Ah non, viens, je t'invite à manger un repas de midi, un almuerzo et puis voilà, enfin des choses comme ça. » Donc, pour la nourriture, on arrive à se débrouiller comme ça.
D'accord.
Grosso modo, on dépense de l'argent dans acheter à manger et réparer le vélo.
D'accord. Ah oui. Oui, j'imagine que vous devez avoir des crevaisons, avoir des
Pas tant
de
que
tout.
ça, au
Non?
final, parce qu'on a des bons pneus, finalement.
Oui.
Mais oui, ça peut nous arriver. Après, avec le temps, et après 8 mois de vélo, on commence à bien connaître la mécanique.
Oui.
Donc, tout ce qui est régler les freins, les vitesses, graisser, etc. Enfin, à part grosse casse d'une pièce qu'on n'a pas avec nous, on arrive grosso modo à réparer, je dirais, 75% des choses qui se dérèglent un petit peu sur le vélo.
D'accord. Tu avais
Voilà.
déjà voyagé à vélo avant?
Non, c'est ma première fois. J'ai tout
D'accord.
acheté, j'ai tout découvert sur le tas. La première semaine où j'ai voyagé à vélo, j'ai voyagé avec un ami de Medellín qui m'a tout appris, enfin qui m'a enseigné beaucoup de choses sur comment voyager à vélo. Et de là, ben, après, avec l'expérience, les rencontres, etc.
D'accord. Et là, tu sais à peu près combien de kilomètres tu as fait au total?
J'en suis à plus de 5 000 km.
Waouh, 5 000 km. Et donc, tu es en vélo depuis la Colombie, finalement.
Depuis la Colombie, c'est
Donc,
ça.
Colombie,
Alors,
Équateur,
grosso
Pérou.
modo, réellement, réellement, depuis, parce que j'ai fait très peu de vélo en Colombie, mais
Oui.
depuis le nord de l'Équateur, enfin la frontière entre la Colombie et l'Équateur.
Oui. Oui, bon, tu as quand même acheté ton vélo en Colombie, il me semble.
Oui, je
Oui.
l'ai acheté en Colombie, à Medellín.
D'accord. Quels sont, enfin bon, Je vais pas te demander quel est ton pays préféré, parce que c'est toujours très difficile de répondre. Quels ont été les moments les plus marquants?
Compliqué parce que
Il y en a tellement.
tous les jours pour la partie voyage à vélo, en fait, le truc c'est que tous les jours c'est un paysage différent
Oui.
et c'est une aventure et intérieure qui est différente et que je valorise énormément, donc c'est très compliqué d'en choisir une. Par
Oui.
contre, j'ai des expériences de rencontres. En fait, moi, c'est plus, je me rends compte, que le vélo est pour moi plus un moyen de faire des rencontres
Oui.
que
Un moyen de
vraiment
se
découvrir des
déplacer.
paysages. Enfin, vraiment, cette manière de
Oui.
voyager pour moi m'enchante parce qu'elle te permet d'aller à la rencontre des gens et de faire des rencontres que tu n'aurais jamais fait
Oui.
en sac à dos.
Bah,
Du
ça
coup,
donne une
j'ai des.
liberté incroyable en plus.
C'est ça. Et du coup, par exemple, j'ai fait un jour, on s'est arrêté dans un village où on disait qu'il y avait 6 habitants. Nous, on en a vu 3, concrètement. Donc, je ne sais pas où étaient les 3 autres. Et c'était un village où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, on s'est lavé dans la rivière, enfin voilà.
Oui.
Mais le couple qui nous a. Alors, pas qui nous a reçus parce qu'on s'est mis dans une maison abandonnée, mais qui nous a reçus pour pouvoir cuisiner. Nous ont accueillis vraiment avec beaucoup de chaleur. Ils nous ont dit non, 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 vous êtes fatigués, vous voyagez à vélo, je cuisine pour vous. Donc elle nous a cuisiné du riz, des pâtes, enfin voilà, et vraiment adorable. Et le soir, en fait, on s'est couché sur la route et on a admiré les
Sur la
étoiles.
route.
Et ça, vraiment, ça a été un moment, j'ai jamais vu autant d'étoiles de ma vie, je crois.
Oui.
Et on a regardé les étoiles filantes, etc. Enfin, ça a été assez incroyable. Donc
C'était
ça,
où
tu vois, c'est
ça?
un souvenir, on va dire, un peu personnel de je me suis émerveillée de ça.
C'était dans quel pays?
Après, c'était au Pérou.
D'accord.
C'était au nord du Pérou. Et par exemple, en Argentine, à Mendoza, on a été reçus dans une famille qui nous a ouvert ses portes. En fait, leur fille veut faire un voyage à vélo. Donc c'était l'occasion. De discuter avec elle, de comment ça se fait un voyage à vélo, etc. Et en fait, on a été ouvert, enfin, c'est une vraie famille aujourd'hui, on est resté une semaine à Mendoza. Et voilà, et ça a été une rencontre, quand ça fait plusieurs, ça fait un an que t'es parti de chez toi, en fait, tu te rends compte que d'arriver dans un endroit qui n'est pas seulement un endroit où on te loge, mais qu'en fait, ça se transforme en une famille et en un foyer.
Oui.
C'est des choses que tu valorises énormément parce que tu
T'as plus
reçois
l'habitude.
une chaleur familiale que tu n'as pas eue pendant très longtemps quand tu es loin de ton pays, loin de ta culture. C'est des choses que tu valorises énormément, par exemple.
Oui.
Et sinon, pour ce qui est plus en rapport avec ma thématique initiale et qui était avant le voyage à vélo, je reviens sur l'Agroteca, qui était le fameux projet de jardin.
En Colombie.
De jardin urbain. En fait, on s'est investi donc dans ce projet-là et on les a aidés à mettre en place en fait un événement de mobilisation pour rameuter un peu des gens et qu'il y ait des nouveaux citoyens, des nouveaux habitants qui s'investissent dans le projet. Et en fait, on a mis comme ça, en 15 jours, on a organisé, on a monté un événement pour un samedi matin ou non samedi toute une journée avec des activités, etc. Et bien évidemment, on l'a fait sous une forme collaborative, sans qu'il y ait quelqu'un qui dit toi tu organises ça, toi tu organises ça. Et du coup, arriver à l'aboutissement en fait de cet événement, de voir que des gens qui à l'origine n'étaient pas forcément habitués à l'intelligence collective, à se saisir des choses, ça a été un moment très fort. Et surtout, j'ai eu un moment avec une dame qui s'était investie qui s'appelle Magda. Et en fait, Magda, c'est une dame qui a 50-60 ans, qui a vécu des choses assez terribles dans la Comuna 13. Et en fait, elle s'est investie dans ce projet. Je l'ai interviewée à la fin. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu retires en fait de cette expérience d'organiser cet événement? Et elle dit, bah, ce qui est génial, c'est que on a fait plein de choses. Je me rends compte que bah, on a pu faire plein de choses. On n'était pas beaucoup. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est qu'elle m'a dit, et je pensais pas que j'étais capable de faire tout ça, de mener un projet à bien Et je suis vraiment heureuse de voir que j'ai pu être indépendante et que j'ai pu mener une idée que j'avais jusqu'au bout et qu'on m'ait laissé l'opportunité de le faire. Et ça,
D'accord.
tu vois, par exemple, ça a été un moment super sort pour moi.
Ouais, où tu te dis, bah, en fait, c'est pour ça que tu fais tout ça, quoi. Pour réveiller les gens quelque part et leur faire comprendre, enfin, prendre conscience de leur propre pouvoir.
Exactement, c'est exactement bien, c'est très très bien résumé ce que tu viens de dire.
Merci.
Et vraiment, voilà, j'ai vu cet aboutissement. Et franchement, quand tu travailles sur un projet, sur du court terme, et que tu vois la réalisation de cette chose, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus. De meilleur. Enfin, c'est vraiment ce que je cherche. Et c'est ce que le voyage m'a permis d'ailleurs de comprendre, c'est que moi, j'avais besoin de voir le résultat de ce que je fais.
Oui. Et quand
Et
tu
tu vois,
parles
ça a été.
d'intelligence collective, ça veut dire quoi concrètement?
Alors, l'intelligence collective, en fait, c'est partir du principe que tous, on a des idées, tous, on a des compétences, connues ou inconnues, d'ailleurs, et qu'en fait, en réfléchissant ensemble et en laissant la place à chacun de s'exprimer, en fait, va émerger un projet qu'une seule personne n'aurait pas pu imaginer, en fait, qui va être enrichi. C'est-à-dire qu'une personne pourrait avoir une idée, pour avoir une seule personne peut organiser un événement où tu rameutes des gens, etc., et distribuer les tâches à tout un chacun. Et en fait, si tous ont réfléchi ensemble, en fait, l'événement en sort, selon moi, plus enrichi et
Oui.
surtout permet d'intégrer mieux les gens et donc de les
D'accord.
motiver mieux à s'investir.
D'accord. Ça me fait
Voilà.
penser, c'est en physique où on t'apprend que c'était quoi déjà? C'est un atome, il pèse je sais plus combien, et mais les atomes tous ensemble, ils sont plus lourds, enfin ils sont plus forts et lourds. Ça
Oui,
me fait penser
exactement,
un peu à ça.
c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est grâce à l'énergie qu'on va tous mettre ensemble, on enrichit en fait un projet
Voilà. Que dans
et on se
collectif, il se
l'approprie
passe
plus
quelque
aussi.
chose.
Donc voilà. Et il y a aussi, c'est pour ça qu'on parle d'intelligence collective, c'est que d'une idée que quelqu'un va émettre, c'est pas l'addition en fait des idées. C'est que d'une idée peut faire émerger une solution ou une autre idée plus profonde venant d'une autre personne et que chacun, on se nourrit en fait les uns des autres.
Oui.
Vraiment, c'est ça. L'intelligence collective, je dirais que c'est le fait de se nourrir les uns les autres et d'enrichir en fait un projet initial.
D'accord. D'accord, c'est très clair. Au niveau, quand on s'est parlé l'an dernier, j'avais. Bon, t'étais arrivée il n'y a pas très longtemps, du coup, t'avais pas encore pris la température, disons, de tout le continent. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais au niveau de la conscience écologique en Amérique latine, que moi personnellement j'ai trouvé un peu faible quand j'étais en Argentine. Après, j'étais pas dans des milieux très écolos, mais par rapport à l'Europe où les gens sont plus sensibilisés en général, je trouvais qu'en Amérique latine c'était moins le cas, mais c'est dû à leurs conditions économiques qui sont plus difficiles que les nôtres. Qu'est-ce que tu dirais, toi?
Oui, clairement, je pense qu'il n'y a pas un effet de masse sur l'écologie en Amérique latine.
Oui.
Il y a vraiment une approche différente selon les pays. Pour moi, en Argentine et au Chili, on a une conscience. Alors, je ne sais pas si c'est conscience écolo, mais en tout cas, surtout au niveau des déchets.
Oui.
Il y a une différence drastique entre l'Argentine et le Chili et le reste de ce que j'ai pu traverser,
Oui.
Colombie, Équateur surtout, Équateur, Pérou et Bolivie, où il y a une présence des déchets permanente
Oui.
qui est moins forte en Argentine, un peu moins forte au Chili. Pour l'instant, je ne peux pas trop dire parce que ça fait très peu de temps que je suis arrivée, mais
Oui.
qui est vraiment moins forte en Argentine. Donc voilà, donc il y a quand même une différence. Après oui, effectivement, je pense qu'il y a... Il y a moins de conscience écologique. Par contre, c'est vrai que si on s'intéresse un peu au sujet, en fait, il y a des initiatives partout,
Oui.
dans tous les pays. Dans
D'accord.
tous les pays, il y a des initiatives et il y en a plein, enfin, plein, toute proportion gardée, mais il y a vraiment, ça existe, il y a des initiatives, il y a des groupes, il y a des réseaux, etc. Donc ça, c'est pas un souci. Mais effectivement, c'est pas encore un sujet, comme je le disais, de masse. Donc du coup, ça ressort pas vraiment dans les médias mainstream ou dans la vie de tous les jours, etc.
Oui.
Donc voilà. Mais c'est vrai que si on s'y intéresse, si on rentre dans le sujet, si on cherche, on va arriver à un projet, puis à un autre, puis à un autre, puis à un autre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait l'idée originelle à Wasikleta d'essayer de créer des synergies en fait entre les entrepreneurs sociaux et environnementaux, parce qu'ils existent, mais ils sont très cachés. Donc il faut leur donner un peu de visibilité, et je pense qu'il y aurait intérêt en fait à donner de la visibilité à ces initiatives qui sont super intéressantes.
D'accord, et pas assez connu finalement.
Et
Enfin,
pas assez connu.
pour le moment.
Et qui reste encore à petite échelle.
Oui.
C'est-à-dire que ça va être quelques personnes engagées qui soit vont organiser un collectif, soit qui veulent développer une petite activité professionnelle. Voilà, ça reste encore, on va dire, à ses débuts. Mais ça existe. Si,
D'accord.
ça existe.
Et en ce moment, donc tu es au Chili, tu as été en Équateur et au Pérou. Récemment, il y a eu beaucoup de crises, de manifestations dans ces pays. Est-ce que toi, tu l'as ressenti, tu l'as vécu?
Alors, par exemple, il y a eu 2 semaines après qu'on soit parti de la Bolivie, il y a eu des problèmes en Bolivie.
Oui.
En Équateur, c'était plusieurs mois après, donc du coup, moi, je ne l'ai pas vécu. Le Chili, je suis en plein dedans.
Ouais.
Alors, oui, les stigmates, on va dire, des manifestations, je suis restée une semaine à Santiago, existent. C'est-à-dire qu'il y a des tags partout. Les boutiques, en fait, ont des rideaux de fer pour se protéger. Jusqu'à des fois, c'est juste une petite porte qui est ouverte. Il y a le rideau de fer général qui est baissé, mais les boutiques sont quand même ouvertes.
D'accord.
Voilà, donc ça, effectivement, on voit les marques
La
de la crise
manifestation,
qui existe.
ouais.
Plus on se rapproche du centre-ville, plus c'est présent. Mais, par exemple, moi, je ne me suis jamais sentie en insécurité.
Ouais.
C'est-à-dire que, et pour autant, je ne suis pas allée dans les manifs, en pleine manif. J'ai fait une manifestation à vélo.
Où ça, au Chili?
Donc, pendant 3 heures à Santiago.
Oui.
Donc, j'ai fait une manifestation, mais enfin, il n'y a eu aucun problème. Ça a été un moment très fort aussi, dans les moments forts que tu me demandais. Ça a été un moment assez fort. D'autant plus qu'en fait, là, ces derniers temps, je voyage à vélo et donc j'ai laissé plus de place au voyage à vélo, puisque ça prend quand même beaucoup de temps. Et j'ai mis un peu entre parenthèses mes projets. Sur le pouvoir d'agir citoyen, d'être utile. Et donc, ces derniers temps, je sens que j'ai besoin de revenir un peu à ce projet, et de me sentir un peu plus utile. Donc,
Oui.
le fait de manifester, d'apporter juste ma seule présence, parce que finalement, j'ai pas fait grand-chose de plus, mais d'être un de plus dans la manifestation,
Oui.
je me sentais, dans cette utilité-là. Donc, ça a été un moment assez fort, et c'était d'autant plus fort que le cortège qui se baladait dans la ville, en fait, était très appuyé par, le peuple. Qui sortaient dans la rue ou qui sortaient à la fenêtre, qui tapaient des casseroles, etc., à notre passage. Donc, on sentait vraiment que la manifestation, enfin, vraiment que le mouvement était soutenu de manière assez massive. Mais à aucun moment, il y a eu de problème là-dessus. Le Colombien, en fait, est allé à une marche, à une manifestation à pied. En fait, il a vu toute une organisation. Alors là, c'était un petit peu plus chaud. Mais en fait, c'est assez bien organisé, en fait, les manifestations. C'est-à-dire qu'il y a des premières lignes, un peu comme à la guerre. Il y a des
Oui.
premières lignes qui sont là en se disant « Ok, je suis prêt à courir le risque d'avoir des gaz lacrymo, de subir des violences policières, parce que ça existe,
Il y en a
c'est
eu, oui.
présent. » Il y en a eu et il y en aura encore.
Oui.
Donc du coup, eux, les premières lignes, en fait, sont là pour empêcher les carabineros, qui sont des sortes de gendarmes français, enfin chiliens,
Chilien.
et de les empêcher en fait d'aller vers le gros du cortège, vers le centre de la manifestation, qui protège en fait. Donc il y a toute cette organisation de la première ligne, il y a des équipes médicales qui sont là pour aider les premières lignes s'il y a une blessure, s'il y a des gaz lacrymo, etc. Enfin voilà, il y a une organisation qui est de telle sorte que Ben, mon ami colombien m'a dit qu'à aucun moment, lui, ça piquait un peu les yeux à un moment. Effectivement, il y a eu les gaz, parce que les gaz passent la première ligne, effectivement, mais qu'il s'est pas senti en insécurité vraiment pour sa personne physique, quoi.
Oui,
Voilà.
d'accord.
Après, si tu es en première ligne, je pense que oui, tu es beaucoup plus exposé, mais tu sais que tu es en première ligne, c'est-à-dire que tu fais le choix
Tu l'as
d'aller en
choisi
première ligne.
quelque part. Ouais.
En tout cas, pour cette marche-là, pour cette manifestation-là.
Donc, c'est des
Donc, c'est
manifestations
des
contre le
manifestations.
gouvernement chilien.
Oui, et contre surtout les carabineros. Ces derniers temps,
Les
ça s'est beaucoup
carabines. Ok.
transformé contre les violences policières.
Ah, d'accord. C'est plus des manifestations, manifestations contre ce qui s'est passé aux précédentes manifestations.
On va dire que ça a commencé en fait parce que le billet de métro a été
Avait
augmenté de 30
augmenté.
pesos.
Oui.
Et donc, c'est les étudiants qui ont commencé à manifester en ne payant pas, le métro. Et en fait, très rapidement, ça a été rejoint par tout le peuple. Et on est bien au-delà de la manifestation pour le ticket de métro.
Oui.
Aujourd'hui, c'est une manifestation pour les questions
Social.
d'éducation, de retraite, de santé. Et par-dessus ça, et j'ai l'impression que ça prend beaucoup plus d'ampleur, ça, contre la répression qu'il y a eu, la répression policière qu'il y a eu envers les manifestants.
Oui, d'accord.
Oui.
C'est drôle parce que ça fait penser un peu aux gilets jaunes, parce que les gilets jaunes, ça a
Exactement.
commencé avec l'augmentation du prix de l'essence, et
Du
puis
pétrole,
finalement,
de
c'est devenu
l'essence.
autre chose.
C'est ça. Moi, malheureusement, je ne me suis pas trop renseignée sur ce qui s'est passé. En France, enfin, je l'ai vu
Ouais,
de loin,
partout.
mais donc, voilà, donc, je ne veux pas non plus donner trop d'avis sur ce qui c'est sur les gilets jaunes, mais en tout cas, les débuts et ce qu'on peut en entendre, on va dire de manière très globale, c'est relativement pareil.
Oui, d'accord. Et tu me disais, au-delà des manifestations, etc., tu disais que tu te sentais que tu te sentais en sécurité en général dans ton voyage en Amérique latine.
Oui,
Oui.
d'autant plus en voyageant à vélo, je me suis dit, j'ai jamais eu aucun problème.
Et tu, mais
J'ai
est-ce que
jamais
tu as
eu,
déjà été
enfin,
toute seule?
comment?
Est-ce que tu as déjà voyagé seule?
Alors, au final, c'était le but,
Oui.
et j'ai pas vraiment beaucoup voyagé toute seule au final.
Oui.
Finalement, j'ai voyagé en tout et pour tout une dizaine de jours toute seule,
Oui, c'était
mais
dans
ça n'a
quel
rien
pays?
changé.
Ça n'a
Ça
rien
n'a rien changé.
changé. D'accord.
Non. Parce que le vélo attire, comme je disais, attire la
La
sympathie.
sympathie, oui, c'est ça. Les gens
Et
ont
donc,
envie de
du coup,
voler
les
des
gens ont
gens rouler.
envie plus de t'aider que de te voler. Ou, on est peut-être un petit peu trop confiant maintenant.
Oui.
Donc, dans les villes, on fait un petit peu plus attention. Mais du moment que tu es dans les villages, dans la campagne, on laisse
Il y
les
a moins de
vélos
risques,
comme
c'est vrai.
ça et il se passe pas grand-chose.
Oui. C'est drôle parce que moi j'avais un vélo à Buenos Aires. Je ne me suis jamais fait voler, mais j'ai plusieurs amis qui se sont fait voler leur vélo à Buenos Aires.
Oui, mais comme je dis, c'est en ville. En
Oui.
ville, oui, on fait beaucoup plus attention
Oui.
en ville,
Oui.
effectivement. On ne laisse pas les vélos comme ça,
Dans la
on
rue.
les attache, on essaye de trouver des endroits où des gens peuvent le surveiller, etc. Oui, en ville, on fait beaucoup plus attention. Moi,
Oui.
je parle plutôt, mais si tu veux, le voyage à vélo, au final, la différence avec un backpacker, c'est qu'en bus, il va d'une ville à une autre. Nous, on passe beaucoup, beaucoup. Beaucoup de temps dans la campagne,
Oui.
le temps de rejoindre d'une ville à l'autre.
Oui.
Donc, du coup, en fait, on va dire que les 75% du voyage se passent en dehors des villes.
Oui, c'est ça.
Donc, en fait, non, je ne me suis jamais sentie en insécurité. J'ai dormi au milieu de nulle part, chez des gens. Enfin, vraiment, les gens, c'est 8 mois de voyage et c'est 8 mois de bonne expérience. J'ai eu une mauvaise expérience en Argentine,
Oui.
où en fait, ma maman m'avait fait envoyer quelques affaires dont j'avais besoin, via un ami qui arrivait à Bariloche.
Ah
Donc de
oui.
Bariloche, il a fait envoyer le paquet à Salta, donc
Oui.
en Argentine. Et en fait, mon paquet a
C'est
fait
arrivé.
partie de quatre paquets qui ont été ouverts et volés. Donc
Ouh.
ça a été
Ah, la
le
poste
drame
argentine. Oui.
de mon voyage, ça a été ça, parce que
Oui.
notamment, on m'a volé un Saint-Nectaire, un fromage qu'on m'avait fait envoyer.
Ça n'a pas de prix,
Ça n'a
ça.
pas de prix. Ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. Voilà.
Bon,
Mais c'est la
ça va,
seule
c'est pas trop
mauvaise
grave.
expérience.
D'accord.
vraiment probant. Après, oui, ça peut arriver d'avoir des hommes qui sont un peu insistants. Le machisme, on le ressent encore, hein.
Oui.
Ça, c'est un peu plus compliqué.
Oui.
Mais non, vraiment, ça reste plus anecdotique.
D'accord.
D'ailleurs, je suis en train de me faire la réflexion que plus je vais vers le sud, moins je le ressens.
Ah oui?
Je ne sais pas si c'est que je m'habitue ou c'est qu'il y en a moins. J'en sais rien.
Moi, je trouvais les Chiliens plus introvertis que par exemple les Colombiens qui ont moins froid aux yeux, disons. Ou les Argentins aussi
C'est
qui ont
possible.
pas froid aux yeux.
C'est possible.
Ça dépend aussi peut-être des pays.
Non, c'est possible.
Tu as fait un post sur Instagram il n'y a pas longtemps sur le fait de tracer sa propre voie et de ne pas être dans les critères de la société, disons, critères habituels. Donc là, ça fait un an et quelques mois que tu voyages. Qu'est-ce que tu penses que le voyage a changé en toi et dans la façon dont tu vois la vie et ta vie et ton futur?
Alors, je pense que je m'en rendrai encore plus compte à mon
Quand
retour
tu
en
reviendras?
France.
Oui.
Donc, je vais te donner une réponse probablement partielle,
Mmh.
mais on est en évolution constante en fait quand on voyage.
Mmh.
Le bon du voyage à vélo, c'est que tu pédales pendant plusieurs heures et donc ça te pousse à penser
Ouais.
aussi. Donc, ça, c'est j'appelle ça. Il faudrait que vraiment je trouve un mot parce que
C'est une
c'est
méditation.
pédaler et méditer en
Oui,
même
c'est
temps.
ça. Mmh.
Pédalité ou quelque chose comme ça. Et du coup, l'évolution, elle est à la fois personnelle et aussi sur ta vision professionnelle des choses. Sur la vision pro, par exemple, moi, j'ai un tout nouveau rapport entre voyage et travail.
Oui.
C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en fait, je peux voyager très longtemps avec très peu d'argent.
Oui.
Et parce que actuellement, on donne des conférences, par exemple, dans les villes, on essaye d'organiser des conférences sur le voyage à vélo pour parler de l'aventure, pour encourager les gens à voyager à vélo. Et
Oui.
à la fin, on propose des stickers et des cartes postales, s'ils veulent, à collaboration, c'est-à-dire
Ils donnent ce qu'ils veulent.
en prix libre. Et
Oui.
donc, s'ils veulent nous donner un coup de main, donc ça nous permet de gagner un peu d'argent.
Mmh.
J'ai commencé à faire des ateliers d'introduction à la communication non violente, ce qui est une compétence, une connaissance que j'avais. Donc,
Mmh.
ça aussi, où on va des fois vendre des stickers un peu sur les places quand vraiment on n'a pas d'autre solution.
Oui.
Donc, ça me permet de rendre mon voyage soutenable
Oui.
sans avoir besoin d'argent,
D'accord.
d'économie, on va dire.
Oui.
Et donc, du coup, ça a drastiquement changé mon rapport voyage-travail
Mmh.
parce qu'avant, en fait, je travaillais pour voyager.
Oui.
Et en fait, je
Maintenant,
me suis
tu
rendu
fais
compte
les deux en même temps.
que avec ce voyage, c'était pas nécessaire d'avoir un travail
Oui.
pour pouvoir voyager, parce que tu peux travailler en voyageant.
Oui.
Et donc, je sais que à mon retour en France, je ne ferai plus un travail pour pouvoir voyager. C'est-à-dire que mon travail, je le ferai parce que je l'ai décidé et que je veux travailler dans cette branche, que ce travail a du sens pour moi,
Oui.
et que je serai heureuse, en fait, de faire ce travail-là.
Oui, tu veux
Et
combiner, enfin, tu veux que ton travail s'intègre à ta vie au lieu de faire tourner ta vie autour du travail.
exactement.
Mmh.
C'est-à-dire que mon travail, je ne vais pas dire que mon travail sera des vacances, mais que
Mmh.
mon travail sera aussi jouissif qu'un voyage.
Oui.
Et que, éventuellement, ça me permet effectivement de voyager, de vivre. Et donc voilà. Mais je ne veux plus que, à un moment, en fait, j'étais arrivée où mon travail était fait pour penser mes prochaines vacances.
Oui.
Et ça, par exemple, c'est une évolution drastique. Je ne veux plus de ça. C'est-à-dire que ou mon travail me plaira et sera vraiment quelque chose que j'adore faire, que j'aime faire au quotidien,
Oui.
ou si je veux voyager, eh ben, je partirai voyager. Et
Oui.
j'attendrai pas de travailler pour faire des économies, etc.
Oui.
Donc ça a été un changement radical.
Mmh.
Autre chose, je pense, c'est que le voyage ne va me faire que je pense que j'aurai du mal à prendre à prendre des vacances. Enfin, à découvrir un pays en vacances.
Oui.
C'est-à-dire que ou je prendrai des vacances pour me reposer, être en France ou proche, voilà. où je voyagerai, mais sur une longue période. Parce que
Oui.
vraiment, avec ce voyage, j'ai pris conscience que pour découvrir un pays, il faut y passer du temps.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Donc, du coup, ça aussi, c'est un vrai changement. Et après, d'un point de vue personnel, ben, en fait, ça me perturbe beaucoup, ce voyage. Mais je pense que c'est une perturbation qui est nécessaire.
Oui, c'est
Parce
positif.
qu'aujourd'hui, en fait, ça me permet, je me rends compte que le voyage me permet de voyager, de faire des choses, de me
Allô?
découvrir moi-même et de poser les bonnes questions. J'avais par exemple à un moment, quand je voyageais en sac à dos,
Oui.
j'étais en mode non, ça fait 3 ans que je suis célibataire, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Et l'envie de fonder une famille est arrivée aussi à ce moment-là,
Oui.
sortie de nulle part. J'étais en France, j'en avais pas particulièrement envie. Et en voyage, c'était devenu presque une obsession. Enfin, pas une obsession, mais en tout cas, c'était quelque chose qui était présent dans mon esprit et que je pensais, etc. Et
Oui.
au début du voyage à vélo, c'était quelque chose aussi que je pensais beaucoup, d'autant plus que je voyageais avec une maman et son fils. Donc
Oui.
voilà, ça me ramenait à toute cette notion de famille.
Oui.
Et en fait, peu à peu, en rencontrant des gens, en voyant des gens qui vivaient de manière différente, en discutant de ce thème avec des gens, de ce thème avec des gens, en fait, j'ai commencé à me poser la question de mes états envie, en fait. Est-ce qu'elle est parce que j'étais dans mes 31 ans, j'arrivais à mes 32 ans, j'ai fêté mes 32 ans il y a 1 ou 2 semaines, il y a 2 semaines de ça.
Oui.
Et donc, j'ai commencé à me dire, mais attends, cette envie d'avoir une famille, etc., est-ce que ça, c'est vraiment une envie de toi qui fait qu'elle est pressante comme ça? Est-ce que c'est vraiment une envie propre ou est-ce
Oui.
que c'est une envie que la société t'impose?
Oui, c'est ce que c'est culturel.
Voilà. Et la réponse, elle est oui, c'est une envie propre, mais le côté pressant et je le veux maintenant venait plus de la société.
Oui.
Et c'est vrai que ce voyage m'a vraiment fait confronter la Vanessa un peu aventurière et voyageuse qui a envie de découvrir le monde et la Vanessa qui a envie d'avoir une famille, etc. Et
Ouais.
en fait, ça a été un frottement qui, depuis très peu de temps, depuis 2, 3 semaines, vraiment, au moment de mon anniversaire, ça a été un peu le déclic. Ben, le frottement, ça y est, et c'est bien lisse, ça s'est bien fait, je l'ai bien travaillé, je l'ai bien réfléchi, je l'ai bien pensé. Et non, en fait, l'envie de voyager, elle est là. Et en tout cas, je ne m'arrêterai pas de voyager parce que je veux fonder une famille. Enfin,
Oui.
j'aurais bien pris conscience que c'est complètement stupide. Ce qui me fera rentrer en France, c'est l'envie d'être utile. C'est l'envie de construire quelque chose à travers mon activité professionnelle et d'avancer là-dedans et revoir la famille et les amis. Mais du coup,
D'accord.
c'est une envie propre en fait. C'est
Et c'est
pas.
moins pressant, c'est moins dans l'urgence.
C'est ça. Je rentrerai quand je serai prête. Et si je dois voyager toute ma vie, je voyagerai toute ma vie. C'est pas plus compliqué que
Ouais,
ça.
tu laisses les choses arriver sans les planifier, sans les prévoir.
Mais ça, c'est vraiment le voyage je pense, qui te donne cet espace-là,
Ouais.
parce que ça te donne un espace-temps
Oui.
que tu n'as pas quand tu travailles, en fait.
Oui.
Enfin, en tout cas, quand tu es dans ton quotidien.
Oui, exactement. Oui, parce que comment dire, quand dans ta vie quotidienne, t'as pas des barrières, mais des obligations. Alors qu'en voyage, t'as beaucoup plus de liberté, donc tu questionnes certaines choses et tu le ferais pas dans ton pays, dans ton train-train.
C'est ça. En fait, je pense que tu ne ferais pas dans ton train-train. C'est-à-dire, il y a un concept qui est très facile à voir, que tu ne ferais pas dans ta zone de confort.
Oui.
Du moment que tu es dans ta zone de confort,
Tu
alors,
poses
c'est
moins de
très
questions.
confortable, d'où son nom. Donc, ça permet de se reposer. Des fois, c'est des choses qui me manquent un peu. Donc, il y a de la fatigue émotionnelle, des fois,
Oui.
qui fait que j'aimerais bien revenir à ma zone de confort.
Oui. Moi,
Mais
pareil.
être en dehors de ta zone de confort, en tout cas, à la limite, parce qu'il ne s'agit pas non plus de se mettre en danger psychique, parce que tu es complètement à l'inverse de ta zone de confort, mais faire grandir ta zone de confort en te mettant un pas au-delà de ta zone de confort, et ben, ça te permet de t'ouvrir l'esprit, ça te permet de te poser des bonnes questions, ça te perturbe un peu, mais c'est ce qui te fait évoluer, quoi.
Ouais, complètement d'accord.
Après, peut-être que l'enjeu, c'est de trouver comment sortir de sa zone de confort en étant dans son train-train.
Oui. Et
C'est le
puis comment
prochain
se
défi.
construire une routine? Enfin, on peut pas toujours vivre dans la... Enfin, on peut pas, je sais pas, mais c'est peut-être un peu compliqué de vivre toute sa vie dans l'aventure. Donc comment se construire
Enfin,
une
en tout cas,
routine?
il y a peut-être des personnes qui y arrivent très bien,
Oui.
mais moi, je sens que là, voilà, j'en suis à 14 mois. Je sais que je ne rentrerai pas en France avant avril-mai, mais je commence à y penser. Après, je le dis pas trop haut et fort parce que la dernière fois, quand j'ai pris mon billet d'avion, c'était en mars pour le mois de juillet et j'étais en mode, oh là là. Encore 3-4 mois, j'en peux plus, ça va être long, j'ai envie de rentrer en France, et puis ben, au final, je suis pas rentrée. Donc,
Oui, il y a des moments
je
où
me
on a
fais
plus
plus
envie de
confiance,
rentrer.
je me fais plus confiance.
Ouais.
Mais
C'est
je suis
vrai,
déjà passée
c'est...
par là. Je suis déjà passée par cette envie de rentrer en France. Donc, voilà, on
Tu le
verra comment ça
sentiras
se passe,
quand ce
mais
sera
oui.
vraiment le moment, je pense. Tu le
Voilà.
sentiras, bon, maintenant, ça y est, quoi.
Ça y est, c'est bon, il faut rentrer. D'ailleurs, ma famille m'a dit, enfin, surtout mes amis, m'ont dit, tu nous appelles quand tu es à l'aéroport. Ou au port, et que tu prends un trajet retour, que tu es effectivement en train de revenir, tu nous le dis
C'est
à ce
sûr.
moment-là. Ne
Oui.
nous préviens plus avant.
C'est ça. C'est ça. Bon, bah
Voilà.
que d'aventures, que de rencontres. Donc là, tu es au Chili, tu vas descendre jusqu'à Ushuaia. Donc ça va
C'est
prendre
ça.
jusque mars-avril, c'est ça?
J'espère arriver fin février, début mars.
D'accord. Waouh.
Et
Ça va
après, l'idée,
tenir.
c'est de remonter jusqu'à Buenos
Ouais. Et de rentrer du Buenos
Aires,
Aires.
avril-mai. Et de là, voir. Alors, à l'origine, je voulais rentrer en bateau
Waouh. Nouvelle aventure.
pour pas prendre d'avion et puis vivre une nouvelle aventure. Apparemment, ça a l'air plus compliqué que prévu. On m'a dit que du Brésil, c'était faisable. Donc, voilà.
Ouais.
Les options sont encore ouvertes.
D'accord. Bah à ce moment-là, on refera une interview et tu nous raconteras
Où
tes
on en est.
nouvelles. Ouais, c'est ça.
Parfait, très bien.
Bah écoute, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour
Écoute, il n'y a pas de
raconter tout
quoi.
ça. C'est toujours très inspirant. Et voilà, c'est super, hein. Tu vis des moments magnifiques et c'est super aussi de les partager sur Instagram, sur Facebook.
Oui, maintenant, il y a le la, il faut voir comment le transmettre correctement. Comment le transmettre? Parce que là, pour l'instant, voilà, je suis dans le mode je voyage et finalement, l'Instagram est un peu la solution de facilité, plus ou moins. En tout cas, j'essaye de transmettre au quotidien.
Ouais.
Après, je suis en train de réfléchir d'ici Ushuaïa à comment transmettre et les projets professionnels que je peux avoir. Et donc, voilà, il y a en attente, il y a ce projet de canal YouTube. Avec des émissions sur les collectifs, etc., qui sont toujours d'actualité,
Ouais.
entre parenthèses, mais d'actualité. Et je réfléchis également peut-être à créer un podcast sur le sujet ou le sujet du voyage ou plutôt le sujet du justement le pouvoir d'agir citoyen version podcast. Donc comment les gens, les peuples rentrent en résistance. Lutte contre le système actuel et toutes
Ouais.
les formes en fait de lutte et de résistance qui peuvent exister, que ce soit de la manifestation, des alternatives, des collectifs, etc. Donc je suis en train de penser à tout ça pour donner un vrai sens, pour donner du sens au voyage en fait.
Ouais. Et puis pour transmettre de... Comment dire? Pour vraiment transmettre ce que tu vis et
C'est
les idées que
ça.
tu as, quoi. Sur Instagram, bon, c'est bien, mais ça reste peut-être superficiel pour te faire confiance.
Je ne sais pas si ça reste superficiel parce que ce que je dis est vraiment de mon. Oui, on ne va pas en profondeur effectivement des sujets, mais c'est surtout que c'est très temporaire, c'est-à-dire que tu postes un truc,
Oui.
les gens le voient et après ça s'oublie.
Oui, c'est vrai.
Donc du coup, je cherche à pérenniser un petit peu ce qui est vécu et ce que je veux transmettre.
D'accord. Ok.
Voilà.
Bon, bah, merci
Écoute,
beaucoup.
merci à toi.
Bah, pas
C'est
de
toujours très
problème.
intéressant parce qu'en plus, c'est toujours très intéressant d'avoir une interview parce que ça me permet aussi de faire le bilan. Je tenais à te remercier parce que c'est pas forcément des moments, enfin, quand on est pris dans le voyage, qu'on change tous les jours de lieu et qu'on a une routine hein, aussi. Hein. On dit on a le train-train en voyage à vélo aussi. Hein. Démonter la tente, pédaler, trouver un lieu où dormir, monter la tente, dormir, enfin voilà. On ne prend pas toujours, toujours le temps de faire le bilan. Et du coup, le fait d'avoir un échange comme ça constructif avec toi, ça m'a permis de me donner cet espace-là de bilan et de voir un peu. Ça permet de clarifier un peu les choses et de prendre du recul. Donc, je tenais à te remercier.
Et comme tu disais, le collectif, bah, ça te donne, ça fait naître de nouvelles idées parfois, d'avoir certaines conversations, certaines rencontres.
Exactement. Exactement.